Avec Henri Padovani, on est heureux de vous rencontrer en Bretagne. Un Corse en Bretagne, les Corses, ils aiment bien les Bretons, tiens.
Eh ben moi, pour vous dire la vérité, j'ai fait deux enfants avec une fille, elle était bretonne. Elle était de Lokirek, comme quoi, hein, on devait aller chercher jusque-là.
Alors, c'était une grande aventure. Vous avez été fondateur de Police, hein, avec Sting et Stewart Copeland. C'était la aventure avec Stewart Copeland d'abord, puis Sting ensuite.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'étais parti en Angleterre pour passer un petit peu de temps, mais en même temps, pas longtemps. Je savais pas. J'étais allé voir comme on part en vacances. Sauf que j'étais parti en voiture et j'avais mon ampli et ma guitare. Mais bon, comme ça, quoi. Hein. J'ai rencontré Stewart et au bout d'un moment, on s'entendait bien. On s'est dit, on va monter un groupe tous les deux. Alors lui, il avait son frère et sa copine, on jouait ensemble tous les quatre, on jammait quoi, on essayait les morceaux, tout ça. Et quand il m'a dit, alors on monte ce groupe, j'ai dit, ouais, mais pas avec eux quoi, tu vois. Il m'a dit, non, mais on va chercher un bassiste. Alors voilà, on s'est mis en quête d'un bassiste, et il fallait qu'il soit chanteur, parce que ni lui ni moi ne chantions, donc on s'est mis à chercher un bassiste. Et Sting, qui lui venait à Londres tenter la grande aventure, s'est présenté, et on l'a pris, mais bon, à l'époque, vous savez, bon, on l'a pris, on le trouvait bien, on savait que c'était un bon, on a vite vu que c'était un bon. Lui, on savait pas trop, c'était pas trop son truc, les punks, enfin, la musique qu'on faisait, mais il avait envie de faire un truc en Angleterre, à Londres, quoi. Donc il est resté, il avait rien d'autre à faire, en fait, lui, il le dit toujours.
76-77, en pleine période punk. Hein.
On a rencontré Sting le 12 janvier 77, ouais.
Il y a eu un seul 45 tours avec vous, je crois, c'est ça hein.
On a même fait d'autres morceaux qui sont après sortis sur d'autres, en B-side, hein, des trucs comme ça. On a fait Fallout.
Et puis, l'aventure a été difficile, il y a eu Andy Summer qui est arrivé, c'était un quatuor ensuite.
Après, on a fait un quatuor, mais on n'était pas meilleur qu'avant, hein, je veux dire. On était simplement un groupe qui essayait de faire des trucs soi-disant un peu mieux. Mais de toute façon, on était rejetés par les punks qui savaient que Stewart était une sorte de converti du jazz rock et que Sting était pareil, quoi. Et donc, moi, je sais que j'avais tous mes potes dans la communauté punk. J'étais tous les soirs dehors. En fait, j'étais un petit peu le mec qui avait les idées pour le groupe parce que je rencontrais tout le monde. Je savais ce qui se passait, mais les deux autres, Stewart et Sting, Sting en particulier, n'était pas dans le truc. Quant à Andy Summers, lui, il n'avait rien à voir avec nous. En plus, il avait 10 ans de plus, quoi. Et donc, on a essayé de cohabiter, mais ça n'a pas marché. Voilà.
Oui, ça a été dur. Puis après, vous êtes parti, ça a été tout de suite en maison disque avec IRS.
Non. Après, en 78, moi, j'ai rejoint Wayne County and the Electric Chairs. On a fait deux ou trois albums ensemble. Après, j'ai monté les Flying Padovanis quand Wayne a pété un câble. Après, avec le batteur des Flying, Chris, qui est mon pote depuis toujours, on a joué avec Kim Wilde. On a fait les Subterraneans avec Nick Hand, tout ça. Bref, on faisait des trucs, on jouait. Moi, j'ai joué avec Topper, avec Pete Farndon. On a monté un groupe qui s'appelait Samurai. Puis un jour, Pete est mort dans mes bras, donc j'ai arrêté.
Et puis, il a monté maison disque.
Vous vous rappelez, le bassiste des Pretenders, on l'a retrouvé. Hein, bassiste, super bassiste, ouais. Alors lui, il était un petit peu, il touchait à la drogue un peu trop, il est mort, enfin, donc on l'a découvert mort. Quant à Topper, c'était un junkie, il s'était barré des clashs à cause de ça. Et c'était un vrai junkie, on s'en sortait plus. Moi, j'ai dit, là, je stoppe, quoi. C'est pas pour ça que je fais de la musique, quoi.
Pretenders, quel beau groupe, hein.
Ouais. Et donc là, Miles Copeland, je l'ai revu, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, bam, bim, je monte une maison de disques, j'ai envie de travailler avec nous. Et il m'a bombardé patron de l'international. Et j'ai fini vice-président de ce label, ça a duré 10 ans.
IRS
Records. Et on a quand même eu la bonne idée, enfin, je sais pas, moi, de signer des groupes comme REM ou Fanny and Cannibals, mais des groupes comme REM que personne ne voulait à l'époque. Hein. Attention, il faut savoir que REM, ils avaient tourné 2 ans et demi en Amérique sans trouver une maison de disques qui voulait les prendre. Hein. Enfin, il y avait plein d'autres groupes comme ça. On avait les Cramps, on avait les Fleshtones, on avait les Lords of the New Church. On avait bon REM, on avait Concrete Blonde, groupe génial, on avait Alarm, on avait voilà, on a même signé Black Sabbath à un moment donné. Ah ouais, bon, après on était devenu le label qui faisait les 400 coups quoi. Mais on a vendu beaucoup de disques.
T'es un personnage avec un chapeau, je crois, le label, c'est ça. Hein,
c'était une image d'agent secret.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
J'ai plein de vinyles moi avec ça.
Parce que IRS, la véritable explication du mot IRS, c'est Inland Revenue Services. Ça veut dire les impôts. Donc on avait fait comme un mec des impôts, quoi. C'était bien, parce que quand on vendait des t-shirts, on disait aux gens, mais pour les gens en Amérique, ça veut dire un truc, IRS.
Pas assez en France, je pense.
Non, mais je veux dire, le mot IRS, c'est comme si vous disiez les Bercy. On avait des t-shirts, on y avait marqué, mettez-vous Bercy à dos sur les t-shirts. Mettez-vous IRS sur le dos, voilà, des conneries comme ça, quoi. Voilà.
Et puis l'aventure s'est arrêtée, je crois que le label a été racheté. Le label a été racheté, c'est ça, non?
C'est-à-dire le label a été plus ou moins absorbé par EMI à l'époque. Et moi, à ce moment-là, j'ai rencontré Zucchero qui cherchait un manager. Il m'a demandé de le manager. J'ai managé Zucchero de 1995 à 2000. Et on a eu un gros succès à l'époque, hein, avec Zucchero en France. Et dans le monde, on a vendu 15 millions d'albums. Donc ça a été un gros succès. Puis après, j'ai arrêté de faire du business parce que ça ne me plaisait plus, quoi.
L'aventure, ça a été... Vous avez continué aussi à faire de la musique en même temps ou bien vous avez arrêté?
Non. Du moment où je me suis mis à IRS, quoi, où j'ai attaqué, ben, j'ai plus fait de musique, quoi. J'ai mis la guitare dans un coin, je l'ai reprise en... Ben, quand j'ai tout arrêté, j'ai dit, bon, on savait, on se retrouve seul. Quelque part, les seuls amis qu'on a dans ce genre de situation, c'est la musique, ces disques, les guitares. On va pas répondre.
Vous êtes resté ami en même temps avec Sting, avec les autres?
Ah oui, oui.
Avec tous, même.
Bon, Sting, on le voyait. Moi, je le voyais assez souvent. Surtout quand j'ai fait Zucchero, comme on était c'était un artiste qui cartonnait, quoi, vraiment. On faisait toutes les télés ici, ailleurs, en Europe, partout. Et donc, on retrouvait Sting sur ses télés. Et puis, bon, du coup, moi, je le voyais plus souvent. Je faisais du business. J'allais le voir en Amérique quand je passais. Quand j'allais en Italie, j'étais tout le temps en Italie avec Zucchero. J'allais le voir en Italie. Je partais sur des tournées à lui. Il venait nous voir. On allait voir du tennis, des matchs de foot, la Coupe du Monde 98. Bref, on faisait les 400 coups. Et on est redevenus acolytes. Et puis là, on s'est pas vraiment quittés, quoi.
Et c'est fini, comment ça s'est arrêté avec lui alors?
Ça s'est pas arrêté avec Sting. C'est-à-dire on continue à se voir, dès que quelqu'un est dans le coin, on se voit, quoi. Et quand la dernière fois que je l'ai vu, c'était au Bataclan.